Sur un an, en mai, elle devrait revenir vers l'objectif de 2%. Le Bitcoin également au cœur de la séance. La crypto-monnaie poursuit sa descente amorcée au mois de mai. Le seuil des 30 000 dollars a cédé ce mardi. Depuis le pic historique du mois d'avril à près de 65 000 dollars, le Bitcoin accuse désormais une chute de plus de 65%. C'était Céline Pentex, Investir pour RFI.
Merci Céline. J'ajoute un tout dernier mot à propos du marché du pétrole pour vous dire que le baril est actuellement à 74,73 $ précisément. C'est la fin du journal. À tout à l'heure, 19h, pour d'autres informations.
Radio G. 101.5 FM.
À l'écoute de l'oreille curieuse, c'est la quotidienne des actualités culturelles et locales de Radio G. On est ensemble pour 50 minutes ce soir. C'est une émission un peu format XXL. Le mardi, c'est le jour où on retrouve nos partenaires. Et aujourd'hui, on retrouve le Quai CDN, le Centre Dramatique National. J'ai été au Quai pour rencontrer la troupe créée à l'arrivée de Thomas Joly. Un nouveau projet pour incarner le Quai qu'on va découvrir ensemble. On avait plein de choses à se dire, alors on va les retrouver tout de suite. Alors pour cette dernière émission avec le Quai CDN, je suis avec Séverine Hamelin. Bonjour Séverine, je te laisse te rapprocher de ton micro.
Bonjour Annelie, ravie de te retrouver en vrai.
Et oui, en vrai et en plus depuis le Quai.
Et oui, nous sommes donc dans le fond documentaire du Quai pour exceptionnellement un enregistrement. Car vous allez voir, je ne suis pas seule pour une fois. J'ai la chance d'avoir des acolytes.
Ouais. C'est une émission ensemble. Il y a Charline Poronne. Bonsoir, Charline.
Bonsoir.
Émeline Frémont. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Damien Avis, bonsoir.
Bonsoir.
On a des petits jeux de passation de micro et vous êtes tous les trois comédiens et comédiennes de la troupe du Quai. C'est ce dont on va parler beaucoup ce soir ensemble. Déjà, merci beaucoup d'accueillir Radio G dans ce fond documentaire. Fond doc, j'ai cru comprendre pour les intimes, j'étais un peu perdue. Alors on est ensemble pour découvrir cette troupe qui a été créée avec le projet de Thomas Joly qui est arrivé l'année dernière, si je ne me trompe pas. Dedans, il y a quatre comédiens et comédiennes. Il y a aussi Damien Gabriac. Alors, quel est, peut-être pour commencer, le projet derrière avoir une troupe d'un théâtre, être la troupe du Quai? En quoi ça consiste? C'est assez singulier aussi.
C'est assez singulier et en même temps, c'est finalement quelque chose qui a toujours existé. Parce que à la création des CDN, après-guerre, cette grande opération de décentralisation de la culture sur tout le territoire, l'idée a d'abord été de donner des maisons de théâtre à des équipes qui étaient déjà sur place et qui construisaient la culture au quotidien. Petit à petit, avec le temps et avec le fait qu'on nomme des artistes, qui est quand même une exception culturelle française en partie du moins, des artistes à la tête de ces maisons, la figure du metteur en scène a pris le pas et la notion de troupe et la notion de comédien, d'artisan sur un territoire s'est un peu effacée. Et Thomas Joly, donc notre directeur, metteur en scène et ami, a proposé ce projet dans la filiation directe de son projet de compagnie, qui était celui de mener un théâtre populaire et exigeant, prenant en compte toutes les strates de la société. Donc il y a d'abord, je dirais que pour moi en tout cas, pour nous, l'idée de troupe, c'est aussi l'idée d'être un artisan sur le territoire en rencontrant tous les publics. Des plus empêchés aux plus communs, disons, pour faire de notre art un outil pour chacun. et qui touche tout le monde et qui puisse ainsi perdurer. Parle aussi un peu de ça. Pardon.
Il y a aussi dans le projet de, enfin, ce que Thomas nous avait dit quand on est arrivé, c'est la question de l'incarnation. Il nous avait proposé d'incarner artistiquement avec lui le quai, parce que le théâtre du quai est incarné par une cinquantaine de personnes malgré tout qui travaillent tous les jours, qui sont identifiées dans leur rapport au public, voilà. Et mais l'incarnation artistique, quand il n'y a pas de troupe permanente ou quand un metteur en scène est là mais qui va à droite et à gauche et tout ça, ou en tout cas il y a une personne, c'est-à-dire le directeur artistique qui l'incarne. Il voulait que ce soit une incarnation plurielle. Et le fait d'être là, effectivement, en travaillant avec les publics du territoire dans des créations de temps en temps à maison, fait qu'il y a une promiscuité et une incarnation de ce théâtre et une rencontre peut-être plus facile avec les publics, contrairement à quand on part en tournée, on reste 3 jours, 15 jours, en résidence des fois un peu plus, mais la rencontre avec le public ne se perdure pas sur des mois, voire des années. Là, c'est vraiment le cas.
Et ce qui est très beau pour faire suite à ce que disent Damien et Perline, c'est que nous, on travaille avec Thomas depuis, pour certains 15 ans, d'autres 10. Et donc, c'était aussi de faire perdurer ce travail au long cours, ici, entre nous, acteurs qui nous connaissons très bien. Et donc, de pouvoir autant être sur scène ensemble que d'aller, comme là en ce moment, faire des lectures dans des écoles, un petit peu au dernier moment. Puisque voilà, on a aussi ce bagage commun de plusieurs années de compagnie qui nous permet d'arriver dans cette maison aussi fort de cette histoire.
C'est intéressant l'idée d'incarner aussi, d'incarner le lieu en étant sur scène, en étant toujours présent. Donc concrètement, ça veut dire qu'on va vous voir dans des créations, on va vous voir sur la scène, mais il y a des échanges, vous vous déplacez, vous avez parlé des fois de rencontres avec des scolaires, alors ça peut être des collégiens, élèves, tout, n'importe qui.
Oui, ça touche après ce qui est aussi assez intéressant, vertueux, c'est d'être dans cette maison et de pouvoir travailler avec les équipes qui sont déjà sur place, qui connaissent leur territoire, leur partenariat, de pouvoir être au service d'un projet de relations publiques et en même temps pouvoir inventer des choses ensemble, pouvoir travailler ensemble directement sur toute l'élaboration et puis tout l'artistique et la pratique en direct. Là en ce moment, ce matin on lisait dans un collège, cet après-midi on y retourne pour finir avec une autre classe. Demain on retourne dans une autre école. Ça c'est finalement une tournée qui s'est inventée au débeauté, la dernière minute. Et ça a marché grâce à une équipe aussi qui a su s'emparer de cette proposition et qui nous permet de rencontrer les différents partenaires. Et ça c'est une des vertus que d'être dans une maison.
Et puis il y a des projets dans lesquels nous on peut s'inscrire qui sont des projets proposés par l'équipe du théâtre en place, et puis des projets que nous on pourrait proposer, enfin voilà, c'est vraiment de la collaboration. L'année a été complexe, donc du coup effectivement on n'a pas pu développer des projets dans l'année à la rencontre publique, même si il y en a eu quand même. Il y a eu Emeline qui est intervenue au lycée toute l'année, qui est intervenue au CHU aussi. Il y a eu des projets, et on espère bien qu'il y en ait de plus en plus, qu'on rencontre de plus en plus de personnes. Voilà, toujours dans cette question de partage. Pas forcément de nombre, mais de partage de choses différentes sur des thématiques différentes en fonction de la sensibilité artistique qu'on peut avoir à ce moment-là.
C'est important aussi de rappeler que vous êtes artiste avant tout et que vous avez aussi des projets, que vous avez des projets avec Thomas, bien sûr, comme vous le rappeliez, qui reste chef de troupe, même si c'est devenu maintenant un CDN. Mais vous êtes là pour faire troupe aussi avec lui. Mais vous avez aussi des projets, en tout cas personnels, à développer. Vous avez des envies, vous avez vous-même, différentes cordes à votre... Et en compagnie, vous avez aussi beaucoup fait d'actions culturelles. Là, on est face à des artistes qui ont quand même, et ça c'est hyper important de le noter, vraiment une grande habitude, une grande expérience de différentes actions avec différents publics. Donc pour nous, c'est une vraie richesse d'avoir ces nouveaux collègues, parce que somme toute, nous sommes collègues maintenant. et à la fois, on n'a pas eu de chance, parce que c'est vrai que le contexte sanitaire a fait qu'ils sont arrivés très vite. Plus vite que prévu, pas forcément pour les mêmes choses que prévu, et on a été obligé de s'adapter toute la saison, nous beaucoup en télétravail. Donc on a réussi à faire effectivement des choses, mais peut-être on en parlera après, et c'est vrai que c'est nouveau pour l'équipe du Centre Dramatique. C'est pas assez rare aussi dans les centres dramatiques aujourd'hui, parce qu'il y en a quand même très peu, voilà, en France. Et ça va être voilà, une nouvelle expérience très intéressante pour tout le monde, je pense. Et voilà, on va essayer que 21-22 soit un peu plus, ressemble un peu plus à ce que ça devrait être, quoi, une année.
Un peu moins contrainte, ouais.
Ouais, c'est ça.
Ouais. C'est intéressant ce qu'on sent que ça permet aussi d'imaginer des projets un peu sur le moment, enfin, comme vous êtes présent et présente au quai, ça fait un peu une force d'action pour tous les projets possibles.
Alors, par contre avec la vigilance quand même, moi je parle de mon côté justement en relation avec les publics, avec la vigilance quand même que voilà, mes chers camarades ne doivent pas devenir des prestataires de services non plus, et que nous c'est aussi forcément qu'on a, des envies, plutôt on a parfois à répondre aussi à certaines choses avec des partenaires, pas vraiment des cahiers des charges, mais en tout cas on est inscrit, la structure est inscrite dans certains dispositifs, notamment quand on parlait tout à l'heure des publics empêchés, etc., dont tu parlais. C'est vrai que c'est important pour nous, voilà, de faire attention à ça, quoi, d'être vraiment aussi, parce que de les avoir tout proche de nous, on va dire, à la fois matériellement et géographiquement, il y aurait un petit côté parfois attention, quoi. Donc c'est ça qu'il va falloir qu'on trouve aussi nous dans la manière de travailler, c'est-à-dire que travailler avec eux avec grand plaisir et autour de leurs propres projets, parce que tout à l'heure vous avez peut-être en parlé un tout petit peu quand même des choses qui arrivent, et mais aussi voilà, nous faut qu'on fasse attention à ça, et on continuera à travailler avec d'autres artistes aussi, voilà, mais parce que c'est ça qui peut être là, je trouve, un peu un écueil, et même pour vous épuiser aussi peut-être, enfin voilà, donc il faut qu'on arrive à trouver le juste truc là.
Un nouveau rythme. Là, moi, je vous vois comme une équipe qui fabriquait des choses ensemble. Tout à l'heure, vous avez dit on se connaît très très bien depuis très longtemps. Vous connaissez aussi Thomas Joly depuis des années. Est-ce que vous pouvez quand même nous raconter un peu peut-être vos parcours respectifs, les moments de croisement, de rencontres, d'où vous venez, de quel projet, et puis après, on verra comment vous êtes retrouvés autour de ce projet de troupe. Allez, Charline.
On va laisser la Toyenne commencer.
Moi j'ai ma rencontre avec Thomas, finalement elle est arrivée très très tôt dans ma longue vie. Elle est arrivée juste après le lycée, juste après le bac. J'ai fait une fac d'art du spectacle à Caen et on s'est rencontrés là. Et on a fait une compagnie amateur, enfin étudiante plutôt, une compagnie étudiante. On jouait un petit peu dans des festivals, tout ça. Ça marchait plutôt bien, voilà. Et en fait, à partir de ce moment-là, bah, y a eu une vraie rencontre, une jeune, de jeunesse, mais une rencontre artistique forte, qui a fait qu'on ne s'est pas vraiment quitté. Alors après, Thomas, lui, est parti au TNB. Je laisserai Emeline raconter parce que c'est là où elle rentre en scène.
Étape suivante.
Pendant ce temps-là, moi, j'étais à Paris. J'ai fait un an d'école à l'école Claude Mathieu à Paris. Et après, j'ai commencé très vite à travailler avec des compagnies de la région. J'étais à Caen. Et puis finalement, pendant l'école du TNB, on ne s'est pas quitté vraiment, puisqu'entre sa première et sa deuxième année, Thomas, il avait fait une mise en scène d'un monologue avec moi. Entre sa deuxième et sa troisième année, j'y m'ai invité sur sa carte blanche au TNB. Fin de troisième année, on a sorti notre premier spectacle de cette compagnie qu'on a appelée La Piccola Familia. Donc moi, j'ai rencontré Emeline qui était au TNB à ce moment-là. Et puis bah alors après c'est parti, c'est allé très vite, c'est-à-dire que c'est on a eu la chance de vivre une aventure de compagnie avec un premier spectacle qui marche, qui fonctionne très bien, une équipe, voilà, on était 5 qui s'est rencontrée, qui s'est solidarisée avec un désir commun d'être sur un territoire aussi. Et voilà, et puis deuxième spectacle, c'était Toa de Sacha Guitry, et puis voilà, il y en a eu d'autres, et on s'est implanté à Rouen très vite. Et 15 ans de compagnie. Et puis finalement, quand Thomas a eu le désir d'être à la direction, de postuler à la direction d'un lieu, au cœur de son projet, il y avait effectivement l'idée de la troupe permanente de l'incarnation artistique dont je parlais. Donc voilà, ça c'est finalement, c'est pas une longue ligne droite, parce que il y a des circonvolutions, parce que c'est une histoire de famille quelque part, sur du aussi long terme mais aussi dense. Voilà, on s'est pas croisés finalement. Il y a pas eu on se croise, on se retrouve, on se croise, on se retrouve. On s'était dit ça au début de la compagnie. On avait écrit dans notre d'intention de compagnie, on s'enverra des cartes postales et puis on se retrouvera. Et en fait, on s'est jamais envoyé de cartes postales parce qu'on s'est jamais quitté. Donc voilà, donc ça c'est une grosse chose à vivre, mais par contre visuellement sur un papier, effectivement ça peut faire un peu longue ligne droite de voilà, ça nous a pas empêché de travailler un peu ailleurs, pour ma part peu quand même, mais sur des projets justement d'action culturelle qui sont des actions artistiques, de développer aussi un désir, de développer une singularité à travers ça.
Voilà. À toi, Emeline.
Eh bien, moi, je suis née à Rennes. Et j'ai commencé le théâtre à Rennes, à la MJC La Paillette, qui maintenant a un très beau théâtre. À l'époque, il n'existait pas. Je suis tombée amoureuse du théâtre grâce à une comédienne qui était notre professeure de théâtre, qui s'appelle Régine Trottel. Et arrivée en 2003, il y avait le concours du TNB, donc pour l'École supérieure nationale d'art dramatique du Théâtre national de Bretagne. Et j'avais 19 ans. Et j'ai passé ce concours et j'ai été reçue dans cette grande école qui était dirigée par Stanislas Nordet, qui était directeur de l'école. Et c'est donc là que j'ai rencontré Thomas en 2003. Et en 2006, quand l'école s'est terminée, il m'a proposé de rejoindre des copains que je connaissais pas à Gaillon. Dans l'Eure, Gaillon qui est connu pour son premier château Renaissance, premier château Renaissance de France, qui est la ville d'origine de Charline. Et je me suis retrouvée à partir avec ma petite voiture dans Normandie et à rejoindre Thomas et trois autres compagnons. Et voilà, comme a dit Charline, on ne s'est jamais arrêté.
Et moi, je suis vraiment la pièce rapportée.
Mais ça n'est pas moins
arrivée,
bien.
Disons. Parce que à la différence des filles, j'ai pas juste rencontré Thomas, j'ai rencontré toute la bande directe. Ça fait un bon uppercut dans la vie. Mais un de ceux qui fait du bien. J'ai rencontré directement la compagnie que Charlie n'a pas citée, qui est en sommeil maintenant, mais qui s'appelait donc la Piccola Familia, enfin qui s'appelle toujours, qui s'appelle donc la Petite Famille. Et pour aller dans ton sens, effectivement, c'était un nom et c'était une histoire et c'était bien la vérité. C'était pas simplement un joli nom qui sonne bien. Et je les ai rencontrés en février 2010 au cours de la formation que je suivais à l'époque. Et c'était une formation complémentaire à l'école que j'avais faite. J'avais fait mes études de théâtre au Théâtre du Jour à Agen, dans le Sud-Ouest, une école fondée et dirigée par Pierre Debauche, un théâtre-école qui a cette particularité-là. De faire jouer les élèves pour leur faire apprendre, donc ça correspond vraiment à cette notion d'artisanat dont je parlais tout à l'heure. C'est comme ça que j'ai appris ce métier. Et j'ai rencontré du coup en février 2010, pendant cette formation au Centre Dramatique Régional de Rouen, une formation professionnalisante où l'idée c'était justement de continuer à jouer pour continuer d'apprendre et de faire son métier. J'ai rencontré cette famille en fait qui m'a ouvert les bras en grand au cours d'un laboratoire autour des étapes préparatoires du gros Henri VI, de cet énorme monstre théâtral que nous avons eu la chance de pouvoir monter intégralement, jouer, tourner jusqu'en 2014-15 presque, ouais, on l'a joué plus de 100 fois, enfin une aventure folle. Et en février 2010, encore un peu sur les bancs de l'école, je commençais à avoir une grande soif de travail. Je rencontre ces fous qui ont un projet fou de monter les 18 heures de spectacle. Et j'avais encore que 22-23 ans. Et quand on propose ce vent de folie, ce vent de jeunesse, ce vent de ce désir de théâtre, en fait, cet appétit de théâtre qui caractérise assez bien Thomas et ceux qui ont constitué la compagnie, j'ai eu la chance de prendre la vague. En fait, le train est passé, j'ai saisi la balle au bon et ma vie a changé grâce à Thomas et à ses projets. Et je suis très heureux d'avoir fait ce choix. Voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré il y a 11 ans maintenant.
On sent qu'il y a une continuité avec tout ce qui s'est fait auparavant, de liens très forts, de famille aussi, et puis la troupe aujourd'hui. Comment vous avez reçu cette idée, cette proposition de dire bon, bah, on va incarner artistiquement le projet du lieu, le projet du quai? Est-ce que ça s'est fait très rapidement? Est-ce que vous l'envisagiez? Est-ce que ça a dû mettre un peu reconsidérer les projets que vous aviez? Comment vous l'avez reçu? Parce que forcément, ça veut dire moins de tournées peut-être, enfin, je ne sais pas, en termes d'organisation aussi, de présence sur le lieu, d'installation à Angers notamment.
Ah bah, c'est sûr qu'il y a forcément, dans la proposition, il y a une proposition d'aller ailleurs, donc de quitter quelque chose. Ça, je pense qu'on l'a vécu tous différemment. Il y a aussi une histoire de vie intime et privée derrière ça. Après, sur la question théâtralement, je dirais, on était aussi arrivé à un moment de compagnie, de bout de 15 ans, à un moment où on sentait qu'il fallait... on était tous d'accord là-dessus, et c'est ça qui était assez beau, pour des raisons très différentes, mais on était d'accord qu'il fallait passer à autre chose. Enfin, il y avait un nœud là à passer, on en avait passé plusieurs, mais celui-là,
il était gros et voilà, c'était le, il y avait des signes qui disaient qu'il fallait qu'on aille ailleurs. Donc finalement, c'était plutôt une aubaine. Après, sur comment on l'a pris, je crois que moi, de mon côté, c'était un inconnu. Donc en fait, je l'ai pris comme tout inconnu, c'est-à-dire bah, j'y vais trop, sans savoir, sans projeter. Avec pas forcément des désirs entre guillemets très concrets, mais bah allons-y, on va tester, on va faire, c'est une expérience de vie. Et puis très vite, bah on découvre un lieu, donc on s'y fait. Après moi j'avais un projet effectivement avant d'arriver au quai, j'avais un projet de mise en scène. Et Thomas m'a proposé de programmer ce projet, donc c'est un beau cadeau parce que sinon effectivement là j'aurais été extrêmement tiraillée entre mon projet de mise en scène d'une compagnie régionale et une proposition dans un centre dramatique national en tant qu'actrice. Je pense que si Thomas m'avait pas proposé cette chose-là, j'aurais été, je sais pas, je peux pas dire quel choix j'aurais fait, mais j'aurais été tiraillée, chose qui s'est moins passée, parce qu'effectivement voilà, j'ai la chance d'être actrice là et de mettre en scène un spectacle dans lequel il y a mes camarades ici présents notamment. Évidemment. Pour l'automne prochain, oui. Pour le mois de novembre. C'est un projet qui s'appelle Échapper, qui est une écriture née du plateau, à partir d'improvisation, et écrite par deux auteurs, autrices, qui sont Damien Gabriac, qui est comédien et auteur dans la troupe, et Émilie Vauvan, qui est une jeune autrice qui a une écriture plutôt poétique et philosophique. Voilà. J'en dis peut-être pas plus, comme ça. Voilà, en suspens. Faites des recherches sur Google si vous voulez, peut-être que vous verrez quelque chose à un moment.
Ce sera la surprise pour d'autres émissions.
L'arrivée au quai, en tout cas, c'était celle-ci. C'était un peu le saut dans le vide, avec un terrain connu.
Émeline, Damien, je ne sais pas si vous avez envie de réagir un peu sur cette question ou si vous vous retrouvez bien dans ce récit-là.
Après, je me reconnais dans celui de Charline, évidemment, mais... D'abord, il y a eu le fait d'être assez impressionné, parce qu'on parle du quai, quand même. C'est pas... Enfin, tous les théâtres sont superbes, hein, mais celui-ci est particulièrement impressionnant. On y avait déjà joué, on avait déjà pratiqué pas mal de choses, des actions culturelles aussi, donc ça a aidé à se projeter. On avait déjà une véritable idée de l'endroit où on allait atterrir. Angers, je connaissais pas plus que ça, j'avais un souvenir. En fait, on dit toujours que peu importe où on est, ce qui compte, c'est ceux avec qui on est. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui pour le coup, se vérifie. Non, c'est un peu, bon, ok, c'est un peu mièvre peut-être, mais non, mais vraiment.
C'est très joli.
C'est vrai, quoi.
C'est très joli.
Il y avait quelque chose de. Comme je vais dans le sens de Charline par rapport à ça, c'est qu'il y a toujours un moment où. Ça a été vertigineux, effectivement. De manière plus personnelle, moi je travaillais à Rouen aussi avec pas mal d'autres compagnies depuis un bout de temps, notamment des compagnons de promotion, des gens avec qui j'avais fait cette formation rouennaise et qui a donné lieu à une compagnie ensuite, à du travail ensuite ensemble, notamment justement des actions directement dans les classes, tout un tas de choses qu'on a pu inventer, et plein d'autres compagnies, d'autres camarades de théâtre, d'autres sensibilités de théâtre aussi qui me permettaient de m'épanouir et d'aller chercher un peu ailleurs quelle théâtralité me plaisait le plus, quoi. Et en fait, au bout d'une dizaine d'années où j'ai eu la chance de beaucoup travailler avec plein de partenaires, c'est un peu la vie qui a décidé aussi. Comme pour la compagnie, il y a eu cette sensation d'un cycle, d'une page à tourner. Moi, j'ai eu la sensation qu'il fallait que je change de tome, quoi. J'avais fini mes 10 premières années, il fallait que je passe à l'autre étape. Et c'est finalement des opportunités de travail qui se réduisaient. J'avais de moins en moins de propositions parce que j'étais de plus en plus encarté, de plus en plus identifié au travail de la Piccola Familia et au travail de Thomas, notamment après Thieste et cet événement fabuleux de jouer dans la cour d'honneur. Ça, d'un côté, ça fait bonne presse et de l'autre, ça éloigne. Et ça, c'est quelque chose que je ne soupçonnais pas et que j'ai appris, pas à mes dépens, que j'ai appris. Et on apprend toujours dans ce métier. Hein. C'était notre Pierre Debauche qui disait ça. Il avait écrit formation continue au-dessus de son bureau. Et même à 80 ans, il était encore en train d'apprendre. Ça, c'est une des grandes leçons que je retiens et ça fait partie aussi des... Enfin bref, des leçons de vie, quoi. Et on a eu de la chance aussi parce qu'on arrive à Angers. C'est une très chouette ville. Les gens nous ont vraiment tous vraiment, vraiment bien accueillis. On n'a pas senti de malaise, au contraire, une vraie bienvenue. On a la chance d'être dans un super outil qui fonctionne très bien, sur tous les plans, dans tous les pôles. Et on nous a fait de la place, quoi. Et à partir de là, il s'agit juste de faire les choses en bonne intelligence, en respectant les différentes personnes et personnalités. Mais on apprend sur le tas, mais comme on y va avec ce doute et cette honnêteté de vouloir bien faire et de pas toujours savoir, mais comme on sait se le dire, et ben on apprend et on coopère, quoi. Mais en tout cas, il n'y a pas de regret, c'est pas un choix, c'est pas du tout un regret, au contraire. Et puis tous les jours, c'est bien de se dire qu'on a de la chance que d'incarner et de travailler à temps plein dans un théâtre, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de copains, beaucoup de camarades, surtout par les temps qui courent avec la crise qu'on vient de traverser. Donc ça redonne encore plus de cœur à l'ouvrage. Et on a beaucoup de chance, en tout cas.
C'est sûr que c'est forcément une autre modalité de travail en tant que comédien et comédienne. Séverine, tu voulais...
Ça engage en plus personnellement, parce que c'est vrai que vous avez quand même fait la démarche de quitter, en fait, comme tu disais. Voilà, c'est quand même quitter une ville, quitter des lieux, quitter des gens, pour s'installer auprès de nous. Parce que c'est vrai que c'est plus facile pour nous, en tout cas l'équipe ici, qu'ils soient ici. Et voilà. Et donc c'est beau. Puis après, c'est vrai qu'on a la chance. Angers, effectivement, on l'a redécouvert là, avec tout ce qui se réouvre enfin, et le beau temps. Voilà, c'est une ville qui a des côtés agréables, heureusement. Ouais. Ça aide aussi.
En débutant l'interview juste avant, vous m'avez dit que vous étiez concertée pour choisir un titre. Je vous propose de l'écouter. C'est Le Monde s'est dédoublé de Clara Isé. Est-ce que vous voulez nous dire pourquoi, ou simplement le plaisir de l'écouter? C'est Charline qui est désignée.
Je prends la parole, mais c'est pas moi qui ai influencé mes camarades. On était tous d'accord.
Non, mais c'est toi qui l'as découvert.
Oui, alors j'ai découvert. Ben justement, c'est Thomas, pour le coup, qui, j'avais pas pensé. C'est Thomas qui m'a fait découvrir cet artiste, en me disant un jour, tiens, je pense programmer cet artiste que je viens de découvrir. Ok. Et il m'envoie une chanson en me disant, je pense qu'elle va te plaire, écoute. Et j'étais à ce moment-là en pleine résidence de création, en tout cas d'écriture de ce fameux projet échappé. Et j'ai écouté cette chanson et j'ai fondu d'émotions, de plein d'émotions en tout genre. Je ne peux pas les nommer forcément, mais il y a elle a une voix, cette femme, qui est extraordinaire. Je sais qu'elle elle a une formation lyrique. Et là, elle fait de la chanson française avec ce grain, effectivement, de voix qui est assez fabuleux. Ses textes, celui-là, Le Monde s'est dédoublé, moi, pour moi, est surpuissant. C'est un hommage, je le dis, hein, c'est un hommage à sa maman qui était Anne Dufour-Mantel, qui est une autrice, philosophe, psychanalyste, que moi j'avais découvert justement, qui est une femme, moi je l'ai découvert à travers ses livres, fabuleuse, d'humanité, de sensibilité, d'intelligence. Et je trouve que dans cette chanson, qui est un hommage à Anne Dufour-Mantel, voilà, il y a tout, c'est très fort d'humanité. Vraiment, et d'espoir de la vie, voilà.
Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'est dédoublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami. Te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares. Ce matin il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. J'ai senti le temps se fondre un instant sur les visages mêmes. Le monde s'est dédoublé. Vos corps que je percevais hier encore dans leur exactitude ont perdu leur densité. nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, son ami prend patience vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares.
Vous écoutez toujours Radio G et l'oreille curieuse dans une émission consacrée ce soir au quai CDN avec la troupe du quai et toujours Charline Poronne, Emeline Frémont et Damien Avis de la troupe et bien sûr Séverine du quai mais qui est à nos côtés. Pas sur scène encore mais à nos côtés. On a découvert le projet de la compagnie, ce qui vous a rassemblé aussi, ce que, là où vous vous retrouvez. Prochainement, on va pouvoir vous voir, je pense à samedi, c'est très très prochain, autour de lecture, autour de deux textes. Il y a Everest de Stéphane Jauberti et Alphonse de Wajdi Mouawad. Comment vous pourriez nous présenter un peu cette proposition, cette action, ces lectures? Est-ce que c'est une personne qui porte une lecture? Est-ce que c'est plus théâtralisé? Il y a des personnages incarnés
Ah oui, non, c'est théâtralisé. Ouais, l'idée, c'était qu'on a vécu quand même une année assez difficile, hein. Très empêchée, très empêchante. Même si on n'a pas tant souffert que ça, parce qu'il y avait encore de la formation possible, qu'on a quand même réussi à résister, disons, en tout cas. Et puis de façon très concrète, on se retrouvait autour de lectures entre nous déjà en fait, en recherche et en stimulation pour rester actif aussi. On n'a pas cette chance. C'est Thomas qui emploie souvent cette image-là. C'est du musicien qui peut de toute façon sortir son instrument et faire ses gammes, du chanteur qui peut aussi travailler sa voix. Au théâtre, on est vite esselé quand même. Et le projet de troupe offre aussi cette possibilité-là, à savoir de partager du temps avec ses camarades. Et du temps de lecture, du temps de recherche tout simplement, pour découvrir des auteurs, des textes et pour continuer à travailler l'outil quoi.
Et puis d'avoir aussi un retour j'imagine par rapport à une interprétation, je me rends pas compte, est-ce que c'est difficile d'avoir ce retour, de dire qu'est-ce que ça rend quand je porte le texte ainsi ou
ouais, c'est, de toute façon c'est toujours collaboratif, c'est toujours une co-construction entre nous quoi. C'est des intuitions qui se confirment et qui sont ensuite
de la lecture par rapport effectivement à un spectacle mis en scène, c'est qu'on est entre acteurs. Il n'y a pas de leader, d'un metteur en scène qui justement aurait une rêverie. Nous, on est là pour avoir des rêveries d'acteurs. Et la rêverie de l'acteur, c'est porter ce texte. Et moi, d'avoir commencé justement à donner à entendre, surtout un peu à voir, mais à entendre surtout ces lectures, je me suis rendu compte à quel point les lectures portées, même incarnées, ça veut pas dire qu'on a une lecture qu'on peut pas incarner, ces lectures incarnées, c'est assez fabuleux pour rentrer dans un univers en fait. On propose aux gens, s'ils en ont le désir, même de fermer les yeux parfois. Alors il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, parce qu'il y en a qui aiment quand même nous voir être en train de lire, parce qu'effectivement on incarne. Mais voilà, il y a quelque chose d'assez magique dans cet exercice. Voilà,
c'est un vrai exercice, c'est aussi ce plaisir là de se reconfronter à un exercice en direct devant et pour les gens, de porter la langue et porter l'histoire de Stéphane Jauberti ou de Wajdi Mouawad. C'est un super exercice, c'est un plaisir, parce que comme tu le dis, on le porte, on l'incarne, on le joue, on est très concrètement, on est assis derrière des pupitres, mais il y a quelque chose de toute façon justement dans cette forme assez installée où on doit être un peu encore un peu plus vivant presque que quand on est quand on connaît le texte sur le plateau et qu'il y a toute l'esthétique qui se déploie. Là pour le coup, on est dans quelque chose de simple, de pur, d'épuré. Quelque chose de modeste, mais à travers cette modestie, cette humilité-là, il y a justement un désir d'être au plus près du texte, au plus simple et surtout au plus rigolard, au plus jovial,
au plus ludique. C'est vraiment ludique. Ouais. Nous, on le fait de manière très ludique et les gens
pour l'avoir fait, le ressentent aussi, ressentent le, voilà, le fun en fait de ce, d'assister à une lecture. Voilà, c'est pas une mise en scène, c'est pas non plus une lecture
oui, de découvrir austère, du
texte,
voilà, solennel. Ouais. C'est absolument pas solennel puisque c'est du théâtre, donc ce sont des personnages qui parlent, donc faut y aller et ça demande une énergie et c'est assez agréable de donner ça.
Et on est dans du jeune public aussi. C'est aussi un espace qui ouvre un imaginaire exacerbé. Là, on est quand même dans deux pièces qui, surtout Everest, qui touche vraiment un registre fantastique. Et c'est assez beau parce que dans les tournées, dans les écoles, on a quand même des enfants qui lèvent la main à la fin, qui comprennent pas mal de trucs. Mais du coup, chacun y va de son interprétation. C'est très ludique. On arrive à échanger beaucoup avec eux parce qu'à l'intérieur de ça, il y a un grand hommage donné à la littérature. Du coup, il y a les enfants. Enfin, on a appris aujourd'hui, sans préméditation de notre part, que un des titres cités était un de leurs livres étudiés cette année. Donc il y a une réaction directe avec les enfants qui est assez géniale. Ça recrée du ludique aussi, et puis il y a toutes les interprétations. Et puis c'est vraiment né de cette année frustrante, et on avait aussi ce désir de retrouver, d'aller aussi à la rencontre. On a eu envie avec les collègues des relations publiques de proposer ça comme un cadeau de fin d'année aussi, quoi. On a tous ce souvenir d'avoir regardé des vidéos des vieilles VHS dans le fond d'une classe alors qu'il fait un soleil magnifique. Là, pour le coup, l'idée c'était quand même de partager un temps, retrouver du vivant, retrouver du sensible avec ce public là qui est pour le coup ultra vivant, ultra sensible, et qui pour le coup ne pardonne rien quand ça ne marche pas. Mais jusqu'ici tout va bien. Les retours sont très, très positifs et extrêmement enrichissants pour nous aussi, parce qu'ils ont une sensibilité, une vision de l'œuvre que nous, on n'avait pas forcément, et on grandit aussi avec eux, quoi.
Et là, le fait qu'on lise aussi pour tout le public, c'est-à-dire dans les serres, enfin dans la serre, il n'y en a pas la plusieurs, serre. dans la serre au forum du Théâtre du Quai, c'est proposé à tous les publics et donc à des familles, et ce sont des textes qui s'adressent au jeune public et aussi à leurs parents ou leur famille ou leur, en tout cas aux adultes. Et ça, c'est assez moi j'aime. Bon, là on n'a pas fait encore, ça commence mercredi. Oui, c'est vrai, peut-être. Oui. Mercredi à 15h et 17h, les mercredis et les samedis à 15h et 17h, et venir de manière intergénérationnelle, petits et adultes et grands-parents, et ben je crois qu'il y a des choses à se, il y a des choses à en tirer, en tout cas parce que ce sont deux textes qui ont une sensibilité philosophique presque sur la vie, et ça permet de manière ludique, mais ça permet vraiment de voilà, je pense que ça peut circuler, ça fait réfléchir en s'amusant, je trouve. Enfin, moi, c'est ce que ça m'a fait à moi, et c'est quelque chose que j'ai hâte de partager avec des gens qui viendraient en famille.
Ouais. Oui, c'est ça. Partager un temps. Ouais.
Ces textes-là, donc vous avez dit, sont tout publics, vraiment ouverts largement.
Bien sûr.
Est-ce que c'est vous qui les avez choisis? Pourquoi? On a parlé de fantastique pour Everest.
Oui.
En quelques mots de synopsis, peut-être.
C'est toi, Damien, qui a porté, qui a fait des recherches de lecture et tout ça.
Oui,
tu as consacré du temps à ça.
Oui, j'ai pris pas mal de temps à ça, mais ça a été un vrai plaisir. Et puis, c'est marrant, on est justement dans le fond documentaire du Quai et on a la chance d'être entouré de livres, de toute une histoire. En fait, l'histoire du lieu aussi, de toutes les choses qui ont été créées ici et tout ça. Et en fait, c'est un plaisir de passer ici parce qu'on peut piocher. C'est la bibliothèque de la maison, quoi. Et on a un super rayon jeunesse. D'ailleurs, merci Séverine, parce que c'est grâce à toi tout ça aussi. Et comment dire, Stéphane Jobertis, c'est arrivé grâce au spectacle d'un ami qui a monté un de ses textes qui s'appelle Jojo au bord du monde. Et j'avais été surpris très agréablement par cette écriture, cet univers. C'est l'histoire d'un petit garçon qui se retrouve balancé dans un monde justement onirico, fantastique, où on croise la Blanche-Neige qui est devenue alcoolique, Batman qui est dépressif, une fée qui c'est carrément Zézette en fait.
Super ambiance.
Super ambiance. Mais justement, c'est ça qui est beau dans son écriture, c'est qu'il arrive à traiter de sujets graves en gardant cette espèce de folie douce et d'humour en fait. Pas forcément noir pour autant d'ailleurs. C'est un auteur qui, c'est tendre, c'est humainement tendre effectivement. Il arrive à cerner des différentes parties des personnalités de ces personnages ou de ces figures, et il arrive à les humaniser. On peut pas, il y a rien de manichéen là-dedans, notamment dans Everest. Et c'est En gros, j'ai vu qu'il y avait du Gioberti, j'ai lu du Gioberti et ça a été un plaisir à chaque lecture. Et là, par chance, on est tombé sur ce texte qui, pour moi, est un de ses meilleurs. Après, c'est très personnel. Et qui demande, comme par hasard, un homme et deux femmes. Enfin, deux hommes et c'est le père, le fils et la mère. Et c'est aussi vachement intéressant parce qu'on peut dégenrer. Il s'agit juste de dire aux enfants que Emeline lira le fils et c'est le fils et ils y croient volontiers. Ça, c'est toujours intéressant aussi. Que dire sur cette histoire? C'est l'histoire d'un papa qui se promène en forêt avec son fils, qui va se faire mordre par un serpent mystérieux, rouge, et de cette morsure, le père va rétrécir à hauteur d'une cerise, un tout petit bonhomme. Donc c'est aussi chouette ce registre-là. Et tout de suite on pense au cinéma, on pense à Chérie, j'ai rétréci les gosses, on pense à Downsizing avec toutes ces choses-là. Bref, ça déploie tout un univers aussi, quoi. Et c'est finalement un conte initiatique. C'est un conte où on va suivre un père qui va chercher à grandir, à retrouver sa taille d'homme, parce qu'en final, au moment où on le rencontre, c'est un homme assez petit sous tous les angles. Et l'histoire de ce fils qui va du coup aider son père à grandir et à retrouver son chemin pour redevenir un homme, ou du moins pour devenir l'homme qu'il n'était toujours pas, alors qu'il était entouré d'une mère et enfin, d'une femme et d'un enfant aimant. C'est aussi l'histoire de cette mère, de cette maman qui elle aussi va chercher sa propre voie, qui va essayer de grandir, ou du moins de s'épanouir, mais ça, je vais pas trop en dire, parce que sinon ça devient un gros spoil. Donc voilà, en tout cas, c'est une histoire extrêmement tendre sur ce noyau familial, sur cet enfant qui aide et qui permet à son père de grandir, sur ce père qui va essayer de retrouver sa taille d'homme et d'être mieux qu'avant, et sur cette mère qui elle est beaucoup plus pragmatique dans la vie, qui lutte pour tenir ce foyer à bout de bras. Et c'est très beau parce que en fait ce sont des gens qui n'ont pas d'argent, ils le disent d'eux-mêmes, ils sont pauvres et tout, mais c'est jamais misérabiliste, ça pitoie pas, au contraire c'est très vivant, et ça c'est hyper agréable. Et Alphonse, c'est autre chose, c'est un autre registre. Alphonse, normalement c'est fait pour être porté par un seul ou une seule actrice. On a choisi de le découper à trois voix puisque nous sommes trois, et ça fonctionne, et ça amène encore plus de dynamisme dans la lecture. Ce qui est super, c'est que c'est une histoire qui est traversée par une galerie de personnages allant de l'enfant au vieux prof de français. Enfin, c'est assez truculent, et on s'éclate à prendre des petites voix par-ci par-là. Enfin bref, il faut composer des personnages. C'est des compositions modestes, mais c'est en tout cas amusant, ludique, ouais. Amusant, et c'est ce qu'on essaie de transmettre aux gens dans cet exercice de lecture, qu'on se prend pas, on se prend très au sérieux, mais pas trop non plus, et qu'on se comprend au sérieux, c'est comment livrer le récit, quoi. Et Alphonse, c'est l'histoire d'un petit garçon, Alphonse donc, qui a un ami imaginaire qui va venir habiter dans sa tête et qui s'appelle Pierre-Paul René, un enfant doux, monocorde et qui ne s'étonne jamais de rien. Ça c'est le titre. Donc c'est tout un programme, hein, tout est dit. Mais justement, ils vont vivre des aventures extraordinaires. Alphonse, lui, dans sa réalité, parce qu'un jour, Alphonse ne va pas rentrer de l'école. Donc on va suivre ce bestiaire de personnages autour de lui, ses parents qui vont être inquiets forcément parce qu'on pense à la fugue. Et on va rencontrer Victor, cet inspecteur de police. Victor qui, pour une fois, n'a pas à s'occuper d'une crapule, mais d'un petit garçon qui a disparu et qui va mener l'enquête. Donc à travers cette enquête, il va rencontrer les copains de classe d'Alphonse. On va croiser Walter, qui a une histoire plus particulière avec Alphonse. On va croiser le voisin de palier aussi, qui malgré lui écoute aux portes. Enfin, tout un tas, une galerie de personnages comme ça qui vont aider Victor et bien sûr le lecteur, du moins l'auditeur là, à refaire le chemin de l'histoire. Et on a un deuxième récit, un récit pour le coup lui aussi onirique, fantastique, enchâssé dans cette réalité fictive, celui de Pierre-Paul René qui doit partir en quête des recettes de gâteaux au chocolat, parce qu'on vit dans un monde, dans le monde de Pierre-Paul René en tout cas, le roi Sabaillon IV est désespéré parce que tous les pâtissiers ont disparu, les gâteaux au chocolat aussi, et on ne peut plus faire de pâtisserie. Et sans pâtisserie, eh bien, tout le monde est triste, quoi. Donc voilà, c'est sur ces deux histoires. Je crois que ça, c'est pas un résumé très très clair, mais en tout cas,
ça donne déjà envie de les découvrir.
J'espère que ça donne envie, ouais. Ouais. Voilà.
Je redonne les dates, donc c'est les prochaines, c'est mercredi 23, demain samedi 26 et mercredi 30, à 15h et à 17h.
Ouais.
Toutes ces lectures sont gratuites, il faut simplement s'inscrire auparavant, appeler la billetterie du quai par exemple. Je parle sous ton contrôle, Séverine.
Oui, tout à fait, billetterie du quai, site internet aussi, c'est réservable en fait. C'est parce qu'on privilégie toujours, vous savez, voilà, les petites jauges aussi. Et puis aussi parce qu'on a choisi, comme le disait Charline, que ça soit joué dans la serre. Donc la serre, c'est un nouvel objet, nouvel endroit dans le quai qu'encore peu de gens ont vu ou éprouvé, puisque nous-mêmes, nous le découvrons et l'éprouverons tout juste avec ces mois de fermeture. Et vous avez souhaité, en fait, l'équipe artistique aussi un petit moment cosy. Donc voilà, c'est pas pour beaucoup de monde. Alors pour l'instant, nous ne sommes pas débordés, hein. Venez nombreux nous rejoindre, mais vous verrez, c'est pour peu de monde, parce qu'il faut rester en proximité et dans une écoute voilà, assez de l'ordre un peu de la sieste parfois, tu vois, entre les deux. Voilà, en tout cas, c'est à partir de 9 ans, plutôt, quand on parle en famille. Voilà, ça peut être vu et entendu aussi par d'autres personnes, bien sûr. Et ce sera pour vous l'occasion de refranchir les portes du quai, pour un moment tout doux et très drôle, parce que c'est vrai qu'ils sont, enfin, vous l'avez dit, mais moi j'ai eu beaucoup de plaisir à entendre ces lectures. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de fantaisie, d'imaginaire, et vraiment on est emporté, alors pas comme pendant un spectacle, mais quand même, c'est pas mal, ça emporte.
Et pour le côté cosy, on remercie encore l'équipe technique du quai, notamment Mathilde, notre régisseuse générale sur ce projet, qui a installé des petits coussins devant pour les enfants, donc on peut s'allonger, on peut... Voilà, on n'est pas que assis sur des chaises très sérieusement, on peut aussi être détente.
Ça a l'air bien comme retrouvaille avec le théâtre, que peut-être comme rencontre aussi avec la troupe pour les futurs spectateurs et spectatrices. Peut-être pour terminer cette émission, est-ce qu'il y a d'autres projets un petit peu en cours qui s'écrivent, que vous auriez envie d'évoquer là maintenant, ou bien ce sera la surprise pour d'autres émissions? C'est très ouvert.
Ce sera la surprise, bien évidemment, pour d'autres émissions. Non, mais il y a effectivement le projet Échappé, le projet porté par Charline, qu'elle a évoqué tout à l'heure, qui nous tient à cœur aussi, parce que ça fait un bout de temps maintenant que c'est sur le feu et qu'on a déjà fait quelques étapes de travail. Donc on a à cœur de porter ce travail et de l'épanouir le plus possible pour le présenter. Et ce sera donc à l'automne prochain.
On peut parler aussi d'une autre création maison, ou une coproduction maison, qui est le premier projet aussi d'une actrice metteuse en scène qui s'appelle Flora Diguet, qui a beaucoup travaillé avec la compagnie, et donc qui s'essaye pour la première fois à la mise en scène, et qui présentera un spectacle qui s'appelle Ian, de l'autrice Pauline Picot, autrice française contemporaine, voilà, qui est une rêverie autour du personnage de Ian Curtis, chanteur des Joy Division. Et donc ce spectacle-là sera présenté fin septembre, début octobre en T400 au quai. Voilà un spectacle aussi du coup musical, pop-rock, sex and rock'n'roll.
Et oui, tu as raison d'en parler, parce que même si on doit effectivement garder un peu le secret certaines choses, puisque pour quand même... Et fidèles spectateurs et auditeurs, donc cette année, le choix qui a été fait, c'est de ne pas ouvrir la saison au mois de juin, parce que vous voyez, on est déjà au mois de juin déjà. Mmh. Et même si là, le temps, j'ai l'impression qu'on est en mars ou en octobre. Mais donc, ce sera vraiment en septembre. Donc, on vous donne rendez-vous le 3 septembre pour voilà, avoir les informations complémentaires et dévoiler toute la saison. Et le petit clin d'œil est important sur Yann, puisque c'est une info que Annelie avait fait passer, alors pas du côté des auditeurs, mais du côté de la radio, puisque nous avons certains animateurs de la radio, voilà, qui ont pu rencontrer l'équipe, parce qu'il y a eu des rencontres autour de collectage de paroles, autour de, voilà, de la musique.
Du rapport à la musique.
Voilà, ouais. Donc on aura encore des liens, en tout cas, avec Radio G autour de ce spectacle à l'avenir. Et puis, bah, voilà, notre directeur metteur en scène, de toute façon, et donc créateur, et il y aura des projets aussi de Thomas Joly l'année prochaine, mais ça, prochaine émission, hein. On va pas tout dire aujourd'hui,
c'est
hein.
Ça. Allez,
hein,
ça c'est même. Secret, mais ça arrive, ça arrive très vite.
Voilà, c'est ça.
Ça, ouais. Ça se prépare, ça travaille.
Oui, voilà, et puis pour eux, donc ils sont très concernés souvent, donc voilà, ils sont très, très présents. Et petit clin d'œil, ce soir joue donc Raphaël Lanader, elle, pour Paysage, et on serait ravis d'écouter un dernier morceau peut-être, puisque c'est aussi une camarade que vous connaissez bien, et voilà, il vous fait très chaud au cœur.
Oui, avec plaisir.
Voilà. Donc nous, on va au concert, et vous, à très bientôt.
Merci beaucoup, merci pour cette présentation de la troupe du quai.
Merci
beaucoup de nous avoir reçus.
Merci.
Et puis on suivra toutes ces actualités avec plaisir, ainsi que toutes celles du quai que tu as commencé à évoquer, Séverine. Et puis un grand merci pour toutes ces émissions faites ensemble. vu que c'est notre petite dernière année.
Oui, c'est vrai, Anneli.